Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct à l'écoute de l'émission Constellation consacrée à la poésie. Le poète Yves Bonnefoy regroupe les textes qu'il a tout au long de sa vie consacrés à Rimbaud sous le titre « Notre besoin de Rimbaud ». Qu'il l'ait ou non choisi en référence à l'essai de l'écrivain suédois Stig Dagerman, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », à notre tour, nous pouvons affirmer « Notre besoin de Rimbaud est impossible à rassasier » ou, plus élégamment, syntaxiquement, « Il est impossible de rassasier notre besoin de Rimbaud ». C'est pourquoi, après lui avoir consacré 3 volets en 2021, il apparaît nécessaire aujourd'hui d'esquisser une approche des illuminations guidées par ce que Bonnefoy affirme, je le cite, « Lire un grand poète, ce n'est pas avoir à décider qu'il est grand en amateur de littérature, en cela la pire arrogance, c'est lui demander de nous aider. C'est attendre de sa radicalité qu'elle nous guide, tant soit peu, vers le sérieux dont on est peut-être capable, ce qui n'est pas devant les lecteurs qu'à notre tour nous aurons, sans quelque vérité dès lors partageable. Car le plus particulier, c'est le plus universel, et il n'est pas exclu qu'à errer en marge d'une œuvre, on ne recueille de cet or-là quelques parcelles. Être soi n'est pas tant un droit qu'un devoir, qu'écouter un poète rappelle autant qu'il y aide. Certains critiques voient dans un fragment de phrase du texte d'ouverture d'une saison en enfer, je cite Rimbaud, « En attendant les quelques petites lâchetés en retard, une désignation voilée des illuminations. » L'ensemble des 54 textes n'est intitulé ainsi par Rimbaud lui-même, n'est jamais intitulé ainsi par Rimbaud lui-même, et si nous lisons la préface si éclairante qu'écrit Jean-Luc Steinmetz pour l'édition de poche Garnier Flammarion, nous comprenons ceci, je le cite, Verlaine parle des illuminations dans une lettre à Charles de Sivry, laissant entendre ainsi une prononciation anglaise du mot, que par ailleurs il accompagne de précisions telles que « painted plates » ou « colored plates ». Nous n'avons aucune raison de soupçonner le bien fondé de ces assertions, d'autant plus qu'elles semblent coïncider avec les affirmations d'alchimie du verbe où Rimbaud se dit séduit par des enseignes et des enluminures populaires. Que signifierait précisément « illumination » ? « Plates » veut dire « assiette »,« plaque » ou encore « planche ». Coloriée, peinte, je serais tenté pour ma part d'y voir l'indication d'un dispositif plus complexe, assez proche du travail du rêve. Dans Une saison en enfer, Rimbaud fait référence une fois à la lanterne magique. La lanterne nous le montra. Par cet objet, surtout jouet, on projetait sur une toile ou sur une paroi lisse le motif de certaines plaques coloriées. Je me demande si un certain nombre d'illuminations ne fonctionne pas selon un tel mécanisme par analogie. Sans récuser le premier sens d'enluminure qui assure du goût de Rimbaud, attesté par ses poèmes de 1872, pour certains spectacles naïfs, pour des histoires populaires, pour des scènes de contes, j'accorde plus précisément à ces assiettes peintes ou à ces enluminures une lumière en arrière placée qui les produit aux yeux du lecteur et peut-être de ce premier lecteur que fut Rimbaud. Ainsi se met en position un ensemble qui, d'abord référable à une certaine image dynamique que nous nous faisons de la production du rêve, se retrouverait dans l'écriture projective de Rimbaud. À décomposer les mouvements de ce processus, je noterai d'abord la préexistence d'une scène interne illuminant Rimbaud lui-même et se répandant en lui, exactement comme le rêve investit l'esprit du rêveur. Il se trouverait qu'ensuite Rimbaud en tirerait une plaque littéraire visuelle, ce qui suppose moins une reproduction qu'un entraînement, un développement par les mots. Chaque illumination en serait la réplique et pour tout lecteur équivaudrait alors à une véritable scène hypnotique se mouvant sous son regard et dans son audition. Ce sont quelques-unes de ces scènes hypnotiques que je voudrais donner à entendre, lors même qu'il conviendrait aussi de les donner à voir et donc à relire. Relecture nécessaire pour deux raisons. Tout d'abord parce que les illuminations précèdent de peu l'adieu de Rimbaud à la littérature. On connaît les mots par lesquels Arthur Rimbaud a fait ses adieux dans les brouillons d'une saison en enfer. Je le cite. « Je hais maintenant les élans mystiques et les bizarreries de style. Maintenant, je puis dire que l'art est une sottise. » Et ensuite, parce que presque tous les textes qui les composent résistent tant au sens et à l'interprétation qu'un critique, Zvetan Todorov, a pu affirmer, je le cite, « Je me demande si les illuminations, ou au moins certaines d'entre elles, ou certaines de leurs phrases, ne représentent pas un cas limite où le meilleur hommage de l'interprète consisterait à se taire. » Plus tard, à propos de son passé d'inventeur de langage, Rimbaud confiera à son dernier employeur, César Tian, « Tout cela n'était que des rinçures. » Rinçures ou alchimie du verbe, puisque c'est là le titre d'une section d'alchimie du verbe, délire 2 dans une saison en enfer, et, comme on l'a dit, d'un fragment des brouillons de cette même saison. Un des poèmes les plus énigmatiques a pour titre la lettre H et se termine par l'injonction « Trouvez Hortense ». C'est à cette injonction que l'on obéira pour tenter de rencontrer, selon le mot de Paul Valéry, l'incohérence harmonique des illuminations. Dans un des trois volets consacrés à Rimbaud en 2021 et dans cette même émission, nous avions lu deux textes, « Vagabond » et « Aube », et nous avions lu aussi un des deux textes intitulé « Ville » dans une émission consacrée à Jean-Michel Maupois et qui commence par « Je suis un éphémère ». Aujourd'hui, je vais donc lire quelques fragments des illuminations et d'abord le fragment d'ouverture intitulé « Après le déluge ». Aussitôt après que l'idée du déluge se fut assise, un lièvre s'arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Oh, les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà. Dans la grande rue sale, les étals se dressèrent et l'on tira les barques vers la mer, étagées là-haut, comme sur les gravures. Le sang coula chez Barbe Bleue, aux abattoirs, dans les cirques, où le sceau de Dieu blêmit les fenêtres, le sang et le lait coulèrent. Les castors battirent, les mazagrans fumèrent dans les estaminets. Dans la grande maison de vitres, encore ruisselante, les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images. Une porte claqua et sur la place du hameau, l'enfant tourna ses bras, comprit des girouettes et des coques, des clochers, de partout, sous l'éclatante giboulée. Madame établit un piano dans les Alpes. La messe et les premières communions se célébrèrent aux 100 000 autels de la cathédrale. Les caravanes partirent et le splendide hôtel fut bâti dans le chaos des glaces et de nuit du pôle. Depuis lors, la lune entendit les chacals piaulant par les déserts de thym et les églogues en sabots grognant dans le verger. Puis, dans la futaie violette, bourgeonnante, Eucharis me dit que c'était le printemps. Sourd étang, écume, roule sur le pont et par-dessus les bois, draps noirs et orgues, éclairs et tonnerres, montez et roulez, eau et tristesse, montez et relevez les déluges. Car, depuis qu'ils se sont dissipés, oh, les pierres précieuses, s'enfouissant et les fleurs ouvertes, c'est un ennui. Et la reine, la sorcière, qui allume sa braise dans le pot de terre, ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait et que nous ignorons. Je vais lire à présent deux autres ensembles, deux autres poèmes en prose, intitulés « Phrases », l'un comme l'autre, qui ont la particularité d'être séparés, le premier ensemble, par une sorte de vaguelette, et le second ensemble par des croix, pour isoler, pour mieux isoler, chacune des phrases. Phrases. Quand le monde sera réduit en un seul bois noir pour nos quatre yeux étonnés, en une plage pour deux enfants fidèles, en une maison musicale pour notre claire sympathie, je vous trouverai. Qu'il n'y ait ici bas qu'un vieillard seul, calme et beau, entouré d'un luxe inouï, et je suis à vos genoux. Que j'ai réalisé tous vos souvenirs, que je sois celle qui sait vous garrotter, je vous étoufferai. Quand nous sommes très forts, qui recule ? Très gai, qui tombe de ridicule ? Quand nous sommes très méchants, que ferait-on de nous ? Parez-vous, dansez, riez. Je ne pourrai jamais envoyer l'amour par la fenêtre. Ma camarade, mendiante, enfant monstre, comme sa tête égale, ses malheureuses et ses manœuvres et mes embarras. Attache-toi à nous avec ta voix impossible, ta voix, unique flatteur de ce vil désespoir. Une matinée couverte en juillet, un goût de cendre vole dans l'air. Une odeur de bois suant dans l'âtre, les fleurs rouillies, le saccage des promenades, la bruine des canaux par les champs. Pourquoi pas déjà les joujoux et l'encens ? J'ai tendu des cordes, de clocher à clocher, des guirlandes, de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or, d'étoile à étoile, et je danse. Le haut étang fume continuellement. Quelle sorcière va se dresser sur le couchant blanc ? Quelles violettes frondaisons vont descendre ? Pendant que les fonds publics s'écoulent en fête de fraternité, il sonne une cloche de feu rose dans les nuages. Avivant un agréable goût d'encre de Chine, une poudre noire pleut doucement sur ma veillée. Je baisse les feux du lustre, je me jette sur le lit et tourné du côté de l'ombre, je vous vois, mes filles, mes reines.
Thank you.
Je lis à présent une autre illumination intitulée « Les ponts ». Une note précise que seul le titre de ce poème, parmi tous ceux des illuminations, comporte un article. La description suscite un certain référent dans lequel la plupart des commentateurs ont cru reconnaître Londres. Le dôme désignerait la cathédrale Saint-Paul, l'eau, large comme un bras de mer, la Tamise. Même le caractère habité des ponts pourrait faire penser au fameux London Bridge, autrefois surmonté de maisons. Les ponts. Des ciels gris de cristal. Un bizarre dessin de ponts, ceux-ci droits, ceux-là bombés, d'autres descendant ou obliquant en angle sur les premiers, et ces figures se renouvelant dans les autres circuits éclairés du canal, mais tous tellement longs et légers que les rives chargées de dômes s'abaissent et s'amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts sont encore chargés de masures. D'autres soutiennent des mâts, des signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se croisent et filent, des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge, peut-être d'autres costumes et des instruments de musique. Sont-ce des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des restants d'hymnes publics? L'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer. Un rayon blanc, tombant du haut du ciel, anéantit cette comédie. Un autre texte, intitulé « Ornières », là aussi, une note précise. Selon Ernest Delahaye, un événement réel aurait motivé ce texte. Un cirque américain qui se serait fourvoyé à Charleville dans les années 1868-1869. Ornières. À droite, l'aube d'été éveille les feuilles et les vapeurs et les bruits de ce coin du parc, et les talus de gauche tiennent dans leur ombre violette les mille rapides ornières de la route humide. Défilé de féerie. En effet, des chars chargés d'animaux de bois doré, de mâts et de toiles bariolées, au grand galop de 20 chevaux de cirque tachetés, et les enfants et les hommes sur leurs bêtes les plus étonnantes. 20 véhicules, bossés, pavoisés et fleuris, comme des carrosses anciens ou de contes, pleins d'enfants attifés pour une pastorale suburbaine. Même des cercueils sous leurs dais de nuit, dressant les panaches d'ébène, filant au trot des grandes juments bleues et noires. Thank you. y a un dernier poème en prose intitulé « Fleurs » d'un gradin d'or, parmi les cordons de soie, les gazes grises, les velours verts et les disques de cristal qui noircissent comme du bronze au soleil, je vois la digitale s'ouvrir sur un tapis de filigranes d'argent, d'yeux et de chevelures, des pièces d'or jaune semées sur l'agate, des piliers d'acajou supportant un dôme d'émeraude, des bouquets de satin blanc et de fines verges de rubis entourent la rose d'eau. Tel qu'un dieu, aux énormes yeux bleus et aux formes de neige, la mer et le ciel attirent aux terrasses de marbre la foule des jeunes et fortes roses. Voilà, j'espère que cette émission vous aura donné envie de lire ou de relire Les Illuminations. Vous avez pu entendre successivement, tout d'abord de Béla Bartok, la sonata pour deux pianos et percussions. Ensuite, toujours de Béla Bartok, la même sonate, cette fois-ci son troisième mouvement. Et enfin, vous avez pu entendre d'Igor Stravinsky un extrait des 8 miniatures instrumentales interprétées par l'ensemble intercontemporain Pierre Boulez. J'ai oublié de dire que pour ce qui est de Béla Bartok, le premier morceau était interprété par le Psafa Ensemble avec Paul James et Benjamin Powell au piano, et le troisième mouvement de cette même sonate était interprété par Zoltán Coxis comme pianiste et Ingrid Flitter aussi comme second piano. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.